Et pour ce dernier numéro de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Vronsky, président Vronsky, sur le plateau. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Face à vous, Erwan Lenoir. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Fondateur de AKA Stratégie et directeur de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ryan Nézard. Bonjour. Bonjour Ryan, professeur à Sciences Po. Je suis ravi de vous avoir tous les trois pour cette dernière émission de l'année. On va parler de la situation économique française avec ces signaux un peu contradictoires et brouillés qu'on reçoit en ce moment. On a d'un côté la Banque de France qui vient de nous annoncer une bonne nouvelle, une augmentation de la prévision de croissance pour le deuxième trimestre. On n'a pas encore les chiffres définitifs, ce sera début août. Mais la Banque de France qui revoit de 0 à plus 0,2 la croissance au deuxième trimestre. Sauf que dans le même temps, on voit qu'on a enregistré plus de 36 000 défaillances d'entreprises sur les 6 premiers mois de l'année. C'est un niveau très élevé. Question toute simple pour commencer. Allez, Erwan, je commence avec vous. Est-ce que la France se porte bien ou mal? Est-ce qu'elle est résiliente? On en parle beaucoup avec les chefs d'entreprise, avec Laurent Vronsky, ces entreprises qui traversent les crises, cette permacrise depuis des années. Et en même temps, on voit ces défaillances qui augmentent.
Oui, moi j'allais juste dire, où en sommes-nous? On présente comme une bonne nouvelle le fait qu'on va avoir 0,2% de croissance.
Eh oui.
Non, mais c'est dramatique.
En réalité,
la situation économique française est catastrophique. On a des atouts, on a tout ce qu'il faut pour rebondir très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, sur les 10 dernières années, on a 1% de croissance en moyenne en France et 2% aux États-Unis.
C'est la croissance potentielle du pays aujourd'hui.
Donc on est au maximum de ce qu'on peut faire à 1%, ce qui est quand même très très faible, ce qui ne nous permet pas d'affronter les défis à venir, ce qui ne nous permet pas de préparer l'économie et la société de demain. Donc globalement, on est quand même dans une situation qui est très compliquée. Je veux juste dire une dernière chose, c'est l'OCDE a publié récemment un rapport sur l'économie française.
La semaine dernière.
Et il y avait un élément intéressant qui disait que l'incertitude politique est l'un des principaux défis pour la France et que ça nous coûte entre 0,2 et 0,4 points de PIB. Or, je pense que l'incertitude politique va ne faire que croître dans les semaines, voire les mois qui viennent, et que donc la situation compliquée pour un certain nombre d'entreprises est assez loin, à mon avis, de se dégager.
Bon, Ryan, votre avis?
Peut-être si on regarde la publication de la Banque de France sur la situation en juin, il y a à la fois de bonnes nouvelles, mais certes conjoncturelles, et qui surtout ne sont pas forcément durables et sont en fait assez fragiles. Si on regarde dans le détail, ce que dit la Banque de France, c'est que sur le mois de juin, les difficultés d'approvisionnement ont plutôt eu tendance à reculer, ce qui est lié au semblant d'accord qui a été trouvé sur la guerre.
La situation au Moyen-Orient, mais qui redémarre de plus belle
depuis
quelques jours.
Mais en tout cas, sur le mois de juin, la Banque de France dit quand même que sur certains secteurs de l'industrie, ces difficultés d'approvisionnement se sont poursuivies. Elle cite les exemples de l'électronique ou de l'aéronautique. Donc, ça veut dire que quand même, il y a encore des secteurs, au mois de juin, il y avait encore des secteurs qui étaient en difficulté, même si elle relève aussi, et ça, je pense que les chefs d'entreprise l'ont perçu au mois de juin, la hausse des matières premières au mois de juin avait tendance quand même à s'atténuer. Alors, ça a repris depuis quelques jours, mais on va y revenir. Mais donc, au total, l'activité dans l'industrie a plutôt eu tendance à accélérer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et c'était tiré plutôt par les secteurs technologiques, par la défense et même un peu l'automobile avec un effet de rattrapage. Ça, c'est pour l'industrie. Si on regarde les grands indicateurs que généralement on utilise pour apprécier la solidité de cette reprise, le taux d'utilisation des capacités de production, il est évidemment très loin de 100%.
Alors on est à
78%.
78.
Mais il augmente légèrement.
Ce qui est une moyenne plutôt basse, disons. Il faut un peu expliquer. Alors ce taux, c'est un indicateur qui est extrêmement important pour la santé économique du pays, le taux d'utilisation des capacités de production. Alors sous les 80%, c'est quand même un peu faiblard. C'est pas catastrophique non plus, une bonne moyenne.
On était proche des 75, en fait, il y a un an et demi, deux ans.
Donc ça augmente.
Donc ce qui montre que, mais voyez, c'est qu'un frémissement, c'est pas formidable et c'est très fragile, j'y arrive à la fin. Mais donc, ça montre que quand même, au mois de juin, les choses allaient plutôt dans le bon sens, très modestement, comme le dit Erwan Noir, évidemment. Autre indicateur intéressant, les stocks. Et là, on voit aussi que les stocks avaient tendance à baisser au mois de juin, ce qui veut dire que, finalement, dans l'ensemble, la fonction d'offre dans l'ensemble de l'économie avait tendance plutôt à réussir à écouler sa production, qu'elle soit écoulée nationalement ou à l'international. Si on regarde sur les services marchands, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette étude de la Banque de France, c'est qu'elle a noté que certains secteurs avaient redémarré, notamment le BTP, et ce qui est assez paradoxal.
Et quand le bâtiment va.
Alors oui, mais parce qu'il y a eu la canicule, la canicule de juin, puisqu'on va avoir des canicules chaque mois maintenant, en tout cas l'été. Mais la canicule de juin n'a pas conduit le BTP à réduire son volume d'activité, ça c'est intéressant. La Banque de France montre que les entreprises se sont adaptées en termes d'horaires, d'organisation de travail, et aussi qu'il y a eu un effet, ça va vous faire sourire, demande d'installation de clim, qui a fourni de l'activité au BTP. Plutôt positif, mais ça montre que le débat public parfois est très éloigné de la réalité du terrain économique. Et ensuite, si on regarde des secteurs comme la restauration et l'hébergement, il y a des effets un peu contradictoires, c'est-à-dire que dans la restauration, la canicule a été plutôt négative en termes d'activité, dans l'hébergement, plutôt positive. Donc, au global, la canicule n'a pas affecté sur le mois de juin l'activité économique. Je termine Pardon, j'ai été un petit peu dans le détail, mais simplement pour regarder parce que...
Non, mais ça pose l'environnement, effectivement, de manière claire et détaillée.
Mais pour terminer, effectivement, ce 0,2% de prévision...
Ça reste une prévision.
Pour le deuxième trimestre, c'est faible. C'est plus que la prévision antérieure qui était à zéro. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une croissance mirobolante en 2026. Certainement pas. Et de mon point de vue, ça reste très, très fragile, très faible. Et d'ailleurs, quand vous interrogez... C'est une forme de transition. Les chefs d'entreprise, en tout cas quand la Banque de France le fait, elle a un panel de plus de 8000 chefs d'entreprise, ils répondent ou elles répondent qu'en fait, l'incertitude géopolitique reste le facteur principal d'inquiétude. Donc on est encore dans une économie française qui est inquiète.
L'incertitude qui est repartie de plus belle, évidemment, depuis quelques jours avec la crise au Moyen-Orient qui repart. On a un chef d'entreprise sur le plateau, on a le meilleur d'entre eux. Qu'est-ce qu'il en dit, Laurent Bonsi, situation ? L'industrie va mieux, dit Ryan Nézard. Est-ce que vous le sentez ?
Bah écoutez, il faudrait que la Banque de France publie des études plus souvent, parce que c'est bon pour le moral. Alors moi, je veux pas être un trouble-fête, mais moi, je le vois pas du tout sur le terrain. Mais alors, pas du tout, du tout. J'en veux pour preuve un indicateur qui est modeste, mais à mon avis significatif, c'est le crédit inter-entreprise.
Oui.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le crédit inter-entreprise, c'est globalement, vous avez un fournisseur qui facture à son client, et puis il met du temps à le payer. Donc là, le crédit inter-entreprise est en très forte hausse. On voit que ça devient difficile de se faire payer, que les trésoreries sont extrêmement tendues. Les banques ne se précipitent pas au guichet pour financer le BFR, c'est-à-dire pour financer les
stocks. Besoin au fonds de roulement des entreprises,
la trésorerie. Les stocks, pour financer le crédit client, etc. Moi, je ne connais pas d'entreprise où les clients font la queue devant la porte pour avoir des produits. Maintenant, il faut savoir aussi que l'industrie, je veux dire, aujourd'hui, représente à peine 11% de la richesse nationale. Donc, ceux qui ont traversé les crises ont développé des anticorps, comme nous. Donc, s'il y a un petit frémissement, je veux dire que c'est facile d'utiliser les capacités de production. Moi, je ne le vois pas parce qu'on travaille avec beaucoup de sous-traitants en France. Et un indicateur qui est très important, c'est que quand ces sociétés vont bien, généralement, vous avez des délais à rallonge. Il faut plutôt se bagarrer pour pousser vos cahiers des charges pour qu'on les honore. Là, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous pouvez aller dans n'importe quel secteur industriel que nous connaissons bien. Je veux dire, les gens ont de la capacité. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Maintenant, sur le côté incertitude, oui, moi je le vois parce qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui veulent se commettre avec des investissements de moyen et de long terme.
Ouais.
Donc on paye les fins de mois.
L'incertitude que souligne Erwan Le Nord, comment voulez-vous faire ?
L'intérim marche plutôt pas mal, c'est pas non plus un très bon signe, hein. Ça veut dire que c'est un signe vraiment très court-termiste. Bon, alors la visibilité, si on en a pas parlé un million de fois dans cette émission, on en a jamais parlé. Mais je crois que ce qui préoccupe le plus les agents économiques dont je fais partie, c'est que en clair, on sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Parce que il faut pas oublier que le débat lunaire auquel on assiste depuis un an et demi, je veux dire, couvre tout l'échiquier de la fiscalité punitive.
Bah oui.
Bon. Donc, dans ces moments-là, les gens se recroquevillent. Au niveau international, on a juste deux guerres à gérer et une guerre commerciale qui n'a pas disparu, je le répète. On ne sait pas ce qui peut se passer.
Eh oui.
Avec donc, écoutez, c'est super. On a une étude qui montre que ça va mieux, mais comme vous l'avez tout fort intelligemment souligné, je veux dire, on n'est pas sur 6 à 7% de croissance, hein.
Ouais. Donc ça ferait rêver.
Ça, oui, ça ferait rêver. Oui.
Les problèmes de trésorerie là qu'on constate, est-ce que c'est à l'origine du nombre de défaillances quand même incroyable? Il faut expliquer aux auditeurs qui nous écoutent car la moyenne des défaillances, c'est normal que les entreprises meurent. Des entreprises se créent et on crée de plus en plus d'entreprises. Ça, c'est formidable pour le dynamisme de l'économie. Il est aussi normal que les entreprises meurent. Mais la moyenne en France, c'est depuis des années environ 50 000 entreprises par an. Là, on est davantage sur du 70 000. Hein. 70 000 défaillances d'entreprises, c'est les chiffres 2025. Et là, on est à 36 000 sur les 6 premiers mois de l'année. Pourquoi ?
Bah, d'abord, il y a toujours un peu un effet rattrapage Covid, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide, évidemment, aux entreprises entre 2020 et 2022.
Donc, on est encore sur l'effet que de comète du Covid.
C'est minoritaire hein, dans les 36 000 dont vous parlez, mais ça reste quand même un effet qui continue à jouer. C'est ce que des économistes, pardon, le mot n'est pas très habile, mais j'utilise le terme de la littérature économique, oui. Appelaient les entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui avaient été maintenues, qui étaient relativement éloignées de la frontière de compétitivité dans leur secteur, qui auraient dû ou pu disparaître s'il n'y avait pas eu les aides de l'État, et qui ont été maintenues pendant plusieurs années.
Oui, grâce aux prêts garantis au PGE, les prêts garantis par l'État.
Les PGE, aussi l'activité partielle, l'ensemble des soutiens apportés par les pouvoirs publics. Il y a cet effet-là qui est aujourd'hui minoritaire. Il y a surtout l'effet conjoncture, enfin, c'est ce que vous décrivez. Entre les difficultés d'approvisionnement, les difficultés de trésorerie, et puis globalement des gains de productivité qui restent quand même très faibles dans l'économie française, et une croissance potentielle qui globalement reste très faible. Elle est en fait plus faible, parce que la Banque de France a publié une autre étude, je fais un peu de la pub pour la Banque de France ce matin, publie une autre étude sur la croissance potentielle, celle-ci plus pessimiste, en disant qu'elle était en fait inférieure désormais à 1%. En fait.
Ah oui. Oui. Parce que le Trésor avait déjà, c'était passé assez inaperçu. Il y a que sur BFM Business qu'on parle de ces sujets pourtant majeurs. Le Trésor avait révisé il y a 18 mois, 2 ans, la croissance potentielle de la France qui est de 1,3, qui était de 1,3% traditionnellement, sous les 1%, du fait de la baisse de la démographie, notamment. On est sous les 1%.
C'est un facteur quantitatif, la démographie, mais qui existe. Hein. Mais surtout, ce que dit la Banque de France, c'est que les facteurs liés à la productivité nous ramène entre 0,7 et 0,9% par an. Alors tout ça est abstrait. Mais enfin, dans la vraie vie, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ne vont pas être assez profitables pour prospérer, pour s'agrandir et simplement pour ne pas se mettre dans situation de défaillance. Donc il y a tous ces facteurs, mais le premier facteur qui explique aujourd'hui que les défaillances augmentent, c'est la mauvaise conjoncture internationale, européenne et française. Bon, c'est le premier facteur.
Et ce que soulignait aussi Laurent Vonsky et Erwan Lenon, c'est l'instabilité fiscale. Je rappelle que vous êtes le fondateur de AKA Stratégie, mais vous êtes également directeur de l'IREF, l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. C'est votre quotidien à l'IREF. Bref, l'instabilité fiscale.
Oui. Et surtout, comme le disait à l'instant Laurent Vonsky, comme depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis depuis le précédent débat sur le PLF 2026, oui. Avec la taxe Zuckman et tout ce qui a suivi, on est dans un festival de créativité fiscale. On en parlait récemment sur ce plateau avec maintenant l'idée de ce racket fiscal. Vous payez, soit vous donnez, soit vous êtes taxé.
Oui. L'idée de Philippe Aguillon, reprise par Sébastien Lecornu qui a dit chiche, on le fait. La fortune des milliardaires au moment de les successions, soit vous mettez une grande partie dans des fonds d'intérêt public. Reste à voir comment sont gérés ces fonds, soit on vous taxe très fortement.
Ce qui pourrait être une bonne idée, mais qui part de mauvaises prémices. Il n'y a pas de problème d'inégalité dans ce pays, il n'y a pas de problème de recettes publiques dans ce pays. On croule sous l'argent public. La question,
il n'y a pas de problème d'inégalité en France.
Il n'y a pas de problème d'inégalité en France.
On parlait à chaque fois de justice fiscale.
Mais la justice fiscale, c'est juste.
Ça veut dire qu'on se trompe.
Si on se trompe, absolument, on se trompe. Mais c'est juste une autre façon de légitimer les augmentations d'impôts continues. Mais ce que je voulais juste dire sur la question de l'instabilité fiscale, c'est que on a là une double séquence qui va être très compliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la présidentielle. Il y a juste avant le PLF 2027, donc le projet de loi de finances pour l'année prochaine, qui va commencer à être en discussion à la rentrée prochaine, dont les arbitrages sont en train d'être faits. Oui. Et ça va être le début du feu d'artifice qui va durer jusqu'à l'adoption du premier budget du prochain président de la République. Donc il y a une immense incertitude pour les entreprises qui fait qu'effectivement, il est complètement bauché quand on ne sait pas si demain, à quelle sauce on va être mangé.
Ah oui, ce que disait Laurent Vonsky. Ouais.
Alors, il y a une petite musique qui circule auprès de la machine à café et qui ne touche pas que les milliardaires. Parce que quand on parle de taxer les milliardaires et du risque d'exil fiscal, je veux dire, aujourd'hui, ça touche très largement la classe
moyenne. Oui, souvent, ça a rapidement tendance à s'élargir
à
une base fiscale beaucoup plus large.
Pour le coup, ça ruisselle. Bon. Et donc, les gens ont très bien compris que vu la situation du pays et la dette, je veux dire, tout le monde se dit, mais c'est évident qu'on va passer à la caisse. Et tout le monde passera à la caisse. C'est pas juste les milliardaires, donc la classe moyenne. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui quittent le pays qui ne sont pas des milliardaires. Il suffit de franchir la frontière. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin pour trouver un emploi ailleurs, sous des auspices plus cléments au niveau fiscal. Ça, c'est la première petite musique qui circule. Et la deuxième, c'est concernant les retraites. C'est-à-dire que les gens se disent, surtout les gens qui sont prêts, je dirais, qui sont dans les 60 ans, on dit, oulala, il faut se dépêcher de l'apprendre parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On peut pas dire que ces deux tendances sont propices à l'investissement, à la croissance, à l'investissement personnel.
Vous me faites une transition parfaite, cher Laurent, pour le débat suivant, qui est celui sur les retraites, effectivement. Qui va payer? Peut-être les retraités, en tout cas, c'est l'avis du comité de suivi des retraites. Pas le comité d'orientation des retraites, c'est une autre instance, mais qui est très suivie, d'experts, qui suivent l'évolution du budget des retraites, de l'équilibre financier de notre régime des retraites, et qui vient de recommander de sous-indexer les pensions sur plusieurs années pour garantir la pérennité de notre système, de préserver la réforme Borne de 2023, qui, je le rappelle, est suspendue pour 2 ans, et d'instaurer une règle d'or. Qu'est-ce que vous en pensez, Ryan Neza ?
Je trouve que c'est très intéressant. D'abord, sur le constat, ce que dit le comité de suivi des retraites, c'est que le déséquilibre du système de retraite est structurel. Moins 7 milliards d'euros en 2030, et ça va se poursuivre jusqu'en 2070, puisque c'est l'horizon de projection en général du Conseil d'orientation des retraites. En 2070, c'est 2,4% de PIB de déficit. Alors tout ça, évidemment, est là aussi abstrait. Je me permets juste de souligner qu'un jeune ou quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail est concerné par la retraite en 2070. Et donc, quand on dit qu'on va léguer 2,4% du PIB, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on investit aujourd'hui dans la recherche et le
développement. Il faut parler en milliards d'euros parce que tout le monde ne comprend pas les points de PIB. C'est l'équivalent aujourd'hui
de 70 milliards d'euros.
De 75 milliards d'euros à peu près. Hein. On parle quand même du premier budget. Ça serait le premier budget de l'État aujourd'hui.
C'est ce qu'on dépense à peu près pour l'éducation nationale aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire qu'on lèguerait à cette génération-là qui entre aujourd'hui sur le marché du travail un déficit extrêmement élevé. Et c'est une anomalie, moi je ne cesse de le dire. Au plan économique, c'est une anomalie parce que ça n'est pas un investissement, le déficit des retraites. On n'est pas en train d'investir dans des équipements, dans des services publics. Non, c'est une dépense
courante. Dépense sociale courante.
C'est une anomalie ensuite au plan philosophique parce qu'on fait payer les jeunes. Et c'est une parler d'injustice. À mon avis, la première injustice dans ce pays aujourd'hui, elle est entre les générations. Elle est sur le fait que la génération qui arrive, les plus jeunes, est en train d'hériter de dettes budgétaires et climatiques qu'elle aura beaucoup de mal à résorber. Donc, de mon point de vue, ces constats sont très justes et doivent sonner l'alarme. Ensuite, sur les recommandations, moi j'en note 2. La première, elle est à court terme, vous l'avez évoqué. À court terme, ce que préconise le comité de suivi des retraites, c'est de sous-indexer les retraites.
Alors sous-indexer, il faut expliquer
ce que c'est. Ça veut dire qu'il va y avoir une évolution des prix. Tous les ans, il y a de l'inflation. Bon, en général, un peu moins de 2% par an. Tous les ans, la loi dit que les retraites doivent évoluer comme l'inflation. Et tous les ans, il y a un débat au Parlement, en France en tout cas, pour dire... Ah ouais, mais est-ce que, compte tenu de la situation de nos finances publiques, compte tenu du fait que 1 euro sur 4 d'argent public va au système de retraite, est-ce qu'il ne faut pas modérer un peu? Et par exemple, quand l'inflation augmente de 2, augmenter les retraites de 1. Je vous le donne en mille. Hein. Si on sous-indexait, comme je viens de le décrire, d'un point par an, sous-indexer, ça veut dire que la retraite, elle continue à augmenter. Hein,
oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter de 20 ou 30 euros par mois,
on ferait de 15 euros.
On le ferait de 15 euros, voilà.
Le fait de faire ça... à raison de 1 point par an, oui, en 2028, en 2029 et en 2030, ça vous permet non seulement d'effacer tout le trou qui est aujourd'hui prévu en 2030, mais vous allez même dégager un petit excédent de 2 milliards, qui est petit certes, mais qui va vous permettre de commencer à rembourser la dette. Donc je trouve que cette recommandation qui est faite est très bonne et très juste. Ensuite, il y a une autre recommandation qui est encore plus fondamentale, à moyen terme, vous l'avez dit, qui est d'instaurer une règle d'or d'équilibre du système de retraite pour dire il n'y a pas de raison qu'on lègue aux générations futures un système en déficit. Je suis évidemment pleinement d'accord. Je pense que cette règle d'or, c'est ce qui se passe d'ailleurs sur le régime de retraite complémentaire,
oui,
Pierre Carco,
géré par les partenaires sociaux,
consisterait à dire, on va automatiquement sous-indexer un peu les retraites, allonger un peu la durée de cotisation en fonction de la réalité démographique et économique. C'est ce que font les partenaires sociaux quand ils gèrent la GERCARCO. Je me permets de dire que c'est ce que font la plupart de nos voisins européens.
Oui.
C'est ce que les Allemands viennent d'annoncer.
Parce que les Allemands viennent
de... Ce que les Portugais font, etc., etc. Donc je pense que ce sont de très bonnes recommandations. Je ne suis pas certain qu'elles soient suivies au Parlement.
On parle beaucoup de la Banque de France ce matin. Le gouverneur honoraire dorénavant, François Villeroy de Galhau, parler de gérontocratie en France en parlant des systèmes de retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on privilégie nos seniors à la jeunesse en France, Erwan Lenoir?
Oui. Je pense qu'on est dans un système, mais on a construit un système pour une période de croissance et de répartition qui bénéficiait aux personnes qui avaient d'autres carrières que celles qu'on a aujourd'hui. Et il y avait une logique de redistribution. Qui aujourd'hui est déséquilibrée. Je suis pas totalement fan du discours conflit des générations. Parce que je pense que c'est pas la bonne solution, que les gens.
Ça rajoute du conflit à une société déjà très tendue aussi.
Il n'en manque pas vraiment, que les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite ont eux-mêmes cotisé pour les générations d'avant, qu'ils ont fait toute leur démarche de manière fort sincère dans leur travail, et que les pointer du doigt comme étant les méchants de l'affaire est, à mon avis, un peu facile et ne résout pas les choses. Aujourd'hui, la jeune génération, évidemment, a des défis devant elle. Enfin bon, quand les générations précédentes, qui ont connu la crise de 73, qui ont connu les guerres, etc., je suis pas certain que c'était beaucoup plus facile. Donc ce discours conflit des générations, je pense que c'est pas le bon. Par contre, effectivement, le sujet, c'est aujourd'hui une question qui était posée en 2007, je crois, par l'Académie des sciences morales et politiques. La France prépare-t-elle bien l'avenir de sa jeunesse? En 2007-2008, ce petit livre concluait que non, pas vraiment. Il y a la question des retraites, mais on pourrait parler des questions d'éducation, etc., et plein d'autres encore. Je pense que le constat s'est encore aggravé, et c'est ça le vrai sujet, c'est comment est-ce que aujourd'hui, par nos politiques publiques et notre compétitivité et tout l'ensemble du pacte social, on prépare l'avenir de la jeunesse.
Et par le cumul emploi-retraite?
Justement, j'allais venir. Moi, j'ai un sujet sur les retraites. Je pense que concernant les seniors, plutôt que de les culpabiliser et globalement de leur dire vous êtes des bouches inutiles, globalement
l'État vous. Hein. Non, mais c'est pas ce que dit le rapport. Hein.
Non, mais je parle pas du rapport, mais je parle de si vous voulez.
Il y a une musique ambiante. Les boomers se gobergent sur le dos des actifs. Voilà. Il y a la tendance Nicolas qui paie, etc. C'est vrai que c'est pas non plus comme ça qu'on résout les solutions. Il faut un bilan froid de la situation, objectivé. Et que tout le monde comprenne que ceux qui peuvent doivent peut-être faire un effort.
Là, on est entre gentlemen, donc on utilise des mots, je dirais, un petit peu polis, mais ce qu'on entend souvent, c'est, on paye pour les vieux. Non, on paye pas pour les vieux, je veux dire, c'est ce que monsieur expliquait. D'abord, c'est les anciens, et c'est les anciens qui ont du savoir. Et c'est pour ça que je pense que c'est une transition par rapport à, pour moi, un éléphant au milieu de la pièce, qui est la réforme du cumul emploi-retraite, qui va rentrer en action, pas dans 15 ans, c'est 1er janvier 2027. Et ça, pour moi, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Alors, je passerai aux auditeurs le détail de la loi parce que ça donnerait mal à la tête à une aspirine. Mais ce que ça veut dire, c'est que globalement, à partir du 1er janvier 2027, c'est pas vraiment intéressant de cumuler un emploi et une retraite. Et ça, pour moi, c'est un drame absolu. Pourquoi ? J'appartiens à une corporation qui est l'industrie. Il n'y a pas d'école du compresseur. Donc aujourd'hui, une grande partie du savoir-faire qui est le nôtre est détenue par nous-mêmes, est détenue par nos anciens qui doivent le transmettre à des jeunes qui n'ont pas forcément envie de le transmettre 5 jours par semaine, mais donc de pouvoir le transmettre 2-3 jours par semaine, mais ça c'est du bon sens, c'est intelligent. Alors ce que je viens de vous expliquer dans le domaine du compresseur, mais je peux le décliner sur une quantité de secteurs, et donc il va y avoir pas dans 10 ans. Dans 6 mois, il va y avoir une hémorragie au niveau de ces anciens qui peuvent transmettre leur savoir et qui, par cette loi, vont être complètement découragés de travailler. Donc ça, je pense que c'est un drame national parce que je rappelle quand même que dans certains secteurs, notamment celui auquel j'appartiens, quand on regarde la pyramide des âges, elle est quand même très, très largement inversée. Donc, voilà un exemple de réforme intelligente qu'il faudrait faire pour justement que les anciens conservent un pied dans l'activité, puisse transmettre le savoir, et en plus, je dirais que ça facilite le frottement entre les générations.
J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on évoque depuis 20 ans, cette transmission entre les générations, et ça n'avance pas, on prend même des mesures qui vont dans le mauvais sens. C'est parfaitement incompréhensible, Ryan Nézard.
Ouais, moi, sur la réforme du cumul emploi-retraite, je partage assez ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vrai que ça va conduire à désinciter l'activité pour des personnes qui sont à la retraite.
Mais quelle est la logique de cette
réforme ? La logique, c'est quand même, si on regarde le système actuel, c'est quand même de dire que, d'une part, c'est très complexe entre la retraite de base et la retraite complémentaire. Je ne permettrai pas de donner mal à la tête à une aspirine, comme vous l'avez dit, ça m'a fait sourire. Mais c'est vrai que les règles actuelles sont extrêmement complexes. Oui. Il y avait un besoin, au moins, d'harmonisation. Ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord dessus. En revanche, là où il y avait aussi des situations un peu étonnantes, c'est que vous pouviez avoir un cumul intégral de droits entre la retraite et une activité salariée, alors que vous preniez votre, vous liquidiez votre retraite avant l'âge légal. Et ça, c'est vrai que ça donnait le sentiment que on incitait les gens, c'était un peu un système de pré-retraite encouragé, oui. On incitait les gens à partir plus tôt. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est un système dans lequel vous pouviez avoir un cumul emploi-retraite à partir de l'âge légal, mais ensuite, vous pouviez cumuler intégralement entre la retraite et une activité salariée, enfin, ou indépendante d'ailleurs. C'est pas rien, hein, c'est plus de 700 000 personnes hein, qui utilisent aujourd'hui le cumul emploi-retraite.
C'est pour ça que j'en parle.
C'est une réalité énorme. Sociale, économique, mmh. Et aussi, je pense, politique. Et donc, ça signifie qu'on aurait pu, mais bon, ça peut évoluer à l'avenir, on aurait pu avoir un système qui évite de décourager à l'activité, mais qui rétribue les personnes qui font l'effort de continuer à travailler, à transmettre une expérience, à produire de la richesse pour notre société. Voilà, donc je pense que la réforme va un peu trop loin, c'est un avis personnel. Ça ne veut pas dire néanmoins que le système actuel était parfait.
Oui, oui. Bon, enfin, c'est une question de bon sens, quoi.
Alors, si ça vous... Nous, on a... Alors, je mets ma casquette Croissance Plus, donc oui. On a... Moi, j'ai des camarades qui sont des spécialistes des retraites, etc. Donc, on a fait justement une étude assez poussée pour montrer que les fondements de la réforme sont basés sur des hypothèses comportementales que nous ne reconnaissons pas. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je pense que, concernant ce sujet, qui est un vrai sujet de société, ce n'est pas que l'affaire de l'État. C'est aussi, si vous voulez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire, vous avez des sociétés où, si vous voulez, globalement, à partir de 55 ans, on fait tout pour pousser les gens dehors. Donc, je ne suis pas en train de faire une leçon de choses, mais ça aussi, c'est quand même un vrai sujet.
Oui.
C'est-à-dire que je rappelle qu'en France, on considère qu'on est senior à partir de 45 ans.
Je suis senior.
Je crois qu'on est déjà deux autour de ce plateau. Donc là aussi, je pense qu'il y a une révolution copernicienne à faire dans les entreprises pour, je dirais, conserver les seniors et modifier leur travail et faciliter la transmission.
C'est bien de rappeler le message aux chefs d'entreprise aussi, parce que cette transition, elle passe par l'entreprise d'abord et avant tout. Mais ça avance. Ça avance.
Absolument.
Au fur et à mesure qu'on repousse l'âge légal de départ en retraite, on voit que les 55-60 ans sont quand même bien, bien davantage au travail. Reste beaucoup de boulot à faire sur les 60-64 ans dorénavant. C'est la conclusion de cette première partie des experts. Restez avec nous. On va parler de l'inquiétude qui monte en Europe autour de l'éligibilité de Marine Le Pen, qu'on a évidemment traité et couvert cette semaine. Pourquoi l'Europe s'inquiète ? Ce sera le prochain débat. Et puis, on va faire un petit bilan et perspective de l'année et des mois à venir. C'est la DER avant de faire le break estival. On va voir ce qu'en pensent mes invités. Ne quittez pas.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.